L'action de grâce, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'action de grâce? Remercier le Seigneur. Oui, c'est bon, exact. Donc, action faite pour remercier Dieu, on peut le définir aussi comme reconnaissance et remerciement. Et justement, ce matin, nous allons parler de la reconnaissance. On l'a vu hein, dans cette petite vidéo de Sylvie, les enfants, comment, l'enfant comment elle était reconnaissante du cadeau qu'elle avait reçu. Et ce matin, justement, on va parler de la reconnaissance. Et qui n'aime pas être... Donc, qui n'aime pas être félicité au travail quand on a fait quelque chose de bon, quand on a donné de l'aide à quelqu'un? Qu'on aime ça, que ça soit reconnu? Ben oui, c'est normal, hein? Et la reconnaissance est un thème important dans la Bible. Et on voit que même dans le monde séculier aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui démontrent les bienfaits de la reconnaissance. Donc, par exemple, dans le domaine de la gestion des personnes, la reconnaissance au travail est reconnue comme un levier de mobilisation puissant. On sait aussi que les pratiques de reconnaissance agissent sur l'identité de la personne, les relations personnelles, la motivation, la santé, voire les conflits. OK? Et même les neurosciences prouvent que pratiquer la gratitude et la reconnaissance au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Et il y a un psychologue de l'Université de Washington qui dit ceci. Il dit « Se réjouir de ce que nous considérons comme des acquis, une famille, un toit, une bonne santé, nous fait apprécier notre vie. Notre reconnaissance consciente nous amène à apprécier ce que nous avons plutôt que de déplorer ce qui nous manque. » Et souvent, des fois, quand on regarde ce qui nous manque, là, on vient dépressif, mais quand on regarde aussi ce qu'on a, ça nous encourage. Mais quand je parle de reconnaissance, ce n'est pas le merci qu'on va dire à quelqu'un qui nous ouvre une porte. Hein? Ce n'est pas ce merci-là que je parle, ce n'est pas cette reconnaissance-là. Ces merci-là sont faits justement, des fois, machinalement. Mais il y a un psychologue qui a dit que pour avoir une reconnaissance qui est bienfaisante, il faut qu'elle soit exprimée en toute conscience après être passée par deux étapes. D'abord, la constatation du bien reçu. Il peut être matériel, un cadeau ou immatériel. OK? Mais aussi, et également, il faut réaliser le coût que ça a coûté aussi du bienfait qu'on reçoit. Et ensuite, la reconnaissance du fait que la source de ce bienfait se trouve en dehors de soi. Quand on reconnaît quelque chose, ce n'est pas parce que ça vient de moi, là. C'est parce que quelqu'un m'a fait quelque chose et je le reconnais. Et ça fait du bien à moi, mais ça fait du bien à l'autre aussi. Et si le monde séculier commence à découvrir la reconnaissance, ça fait longtemps que Dieu en parle. On se souvient, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices, on faisait des offrandes de reconnaissance à Dieu par des gâteaux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est connu. Et ce matin, justement, on va regarder ce que la Bible enseigne sur la reconnaissance. Donc, avant de débuter, je vais prier, si vous voulez bien. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ta Bible, Seigneur, qui nous enseigne plein de choses, Seigneur, dont sur la reconnaissance, qui nous enseigne également sur toi, Seigneur. Oui, il y a plein d'enseignements qu'on retrouve dans ta Bible afin que tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Et ce qu'on va regarder ce matin, je te demande d'être avec moi, Seigneur, et je suis reconnaissant du temps que tu m'as donné pour faire cet enseignement, Seigneur, et ça m'a fait du bien, Seigneur, à travers tout ça, Seigneur. Et Père Céleste, je te demande de nous bénir tous ensemble, Seigneur, et que vraiment cette reconnaissance soit une caractéristique de chacun de nous, Seigneur, à travers nos relations les uns avec les autres. Pour la gloire de ton nom que je te prie. Amen. Ça marche-tu? Si je mets ça va-tu marcher? Ah! Donc, qu'est-ce que la reconnaissance? Eh bien, Dans la Bible, le mot grec, c'est le mot « eucharistia », d'où le mot « eucharistivien », qui est juste une transcription littérale du mot grec en français. Et la Bible traduit par différents mots. Donc, action de grâce, comme on l'a vu tout à l'heure, rendre grâce, être reconnaissant, ressentir la reconnaissance. Donc, ça, c'est tous des synonymes que nous retrouvons. Et aussi remercier, je crois. Oui, remercier. OK. Remercier. Donc, malgré ce que nous savons de la reconnaissance, ce n'est pas tout le temps évident d'être reconnaissant parce qu'on prend souvent les choses pour acquis. Mais je vais vous donner quelques raisons pourquoi choisir la reconnaissance. Donc, premièrement, parce que Dieu nous y invite. Donc, vous pouvez tourner dans Colossiens 3, 17. Donc, Colossiens 3, 17. Qui nous dit, donc Colossiens 3, 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Donc, on voit ici, c'est une invitation. Donc, Dieu nous invite à ça. OK? Donc, autre chose, c'est parce que Dieu veut nous faire du bien à travers la reconnaissance. Et j'aimerais ça que vous tourniez dans Philippiens 4, 6 et 7. Donc, Philippiens 4, 6 à 7. Donc, un passage très connu. Donc, ça va comme suit. Ne vous inquiétez de rien. Ça ne nous arrive jamais, ça nous inquiète, hein? Non, ça ne nous arrive jamais. Anxieux, hein? C'est bon. Ne vous inquiétez de rien. OK? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc, il veut qu'on fasse ça dans une attitude de reconnaissance. Et ce qui suit, c'est ça qui est bon. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Non. C'est pour ça que Dieu nous encourage à être reconnaissants parce que ça va nous faire du bien. Quand on focus sur ce qui nous manque, on est déprimé. Mais quand on regarde ce qu'on a en Jésus-Christ, ça nous donne la joie, ça nous aide. Et la reconnaissance, qu'est-ce que ça fait aussi? Eh bien, ça nous rapproche de Dieu. Et oui. Donc, dans Psaume, cela, vous n'êtes pas obligé de le lire, je pense que je l'ai mis. Psaume 22, 4, ça dit, Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, quand on est dans la louange, Dieu s'approche de nous. Il aime ça. Il s'approche de nous. Donc, c'est pour ça que ça nous rapproche de lui. Un autre psaume, 104 et 5, dans la Bible du Semeur. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Donc, on entre dans sa présence. Donc, on est dans l'Ancien Testament. Là. Donc, lorsqu'on rentrait dans le tabernacle et tout ça, donc, on pouvait y aller avec louange, reconnaissance. Et Dieu était présent. Donc, ça nous rapproche de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. On le sait qu'on doit, la reconnaissance à Dieu, mais il y a plein de choses qui nous empêchent. C'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. En tout cas, pour moi, j'ai la critique beaucoup plus facile que la reconnaissance, malheureusement. Mais. Oui, ben oui, tout à fait, c'est le contraire.
L'humain fait un, ou il fait
exact.
Mais on ne fait pas les deux en même temps.
Non, c'est assez dur. C'est assez dur de faire les deux en même temps. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans la reconnaissance? Bonne question, hein? Donc, j'ai trouvé, j'aurais pu dire plein de choses, mais je me suis attardé à quelque chose, quelques points que je trouve importants. C'est qu'on vit dans un monde déchu où il fait mal d'y vivre. Le fait qu'on vit dans ce monde-ci, donc on le sait tous, on connaît tous la Genèse, donc initialement, Dieu nous avait créés dans un jardin, tout était beau, on était en relation parfaite avec Dieu. La communion était parfaite aussi, mais Adam et Ève avaient été créés parfaits, sans aucun péché. Et on va reconnaître ça un jour, nous aussi, hein? Quand on va être avec le Seigneur, on va être transformés, c'est ça notre espérance qu'on a vue dans l'autre série. Donc, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la chute. Donc, Dieu nous avait dit, vous pouvez profiter de tous les arbres du jardin, manger tous les fruits des arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Il dit, si vous en mangez, vous mourrez. Il y avait une conséquence. Mais ils ont été séduits par Satan, par le serpent. Ils ont désobéi et ça a amené plusieurs souffrances. Plusieurs souffrances. Donc, et ces conséquences-là, hein, c'est justement, donc, la souffrance est rentrée dans le jardin et la malédiction aussi. Donc, on va tourner dans Genèse 3, 16 et 19. Donc, début de la Bible, Genèse 3, 16 à 19. Il y aurait quelqu'un qui voudrait me lire ça. En quoi que pour l'enregistrement, je serais mieux peut-être de le lire. Je suis en train de penser à ça, là. Puis Maurice me fait dire oui. Donc, Genèse 3, 16 et 19, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, on voit ici, dès le premier verset, que déjà, les relations entre l'homme et la femme vont être bousillées. Il y a la malédiction sur la création, sur le sol. Donc, le sol sera maudit. C'est avec peine qu'on va avoir trouvé la nourriture. Y a-t-il des jardiniers dans la salle? Non, pas trop. Oui. Les racines, les ronces et les mauvaises herbes et tout ça, là, ça vient de là. Normalement, on n'aurait pas eu. Non. Et c'est à la sueur de notre visage qu'on va manger notre pain. Donc, tout ça, ça amène des frustrations, ça amène du découragement qui peuvent justement nous empêcher d'être reconnaissants. Donc, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, ça je l'ai dit, ils ont été chassés du jardin. Donc, ça c'est un petit peu plus grave, ça a des conséquences un petit peu plus graves. On voit ça dans Genèse encore 3, 22-23, donc juste un petit peu plus loin. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et Dieu, et l'Éternel Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, on voit ici qu'ils n'ont plus accès à l'arbre de la vie, donc la mort est entrée dans le monde. Et la mort, ce n'est pas anodin. On voit dans d'autres passages de la Bible qu'il nous est dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Donc, ce n'est pas anodin, ça. Donc, ça a eu des conséquences énormes. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Notre cœur a été affecté. Notre cœur profond a été affecté. Je ne sais pas si je l'ai mis. Donc, Jérémie 17:9. 17:9. Donc, on va lire, je vais vous le lire. Vous pouvez tourner, mais c'est un passage qu'on connaît. Jérémie 17:9 nous dit, « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs. Je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. » Avant la chute, ce n'était pas comme ça. Adam et Ève, comme j'ai dit, étaient parfaits. Okay? Mais à raison de notre nature déchue, ben notre cœur est tortueux, il est centré sur nous-mêmes, malheureusement. Nous ne cherchons pas naturellement Dieu. Nous faisons les choses à notre manière, sans nous soucier de Dieu, des autres. C'est la nature que nous avons héritée d'Adam et Ève. Notre cœur est vraiment porté au mal. La preuve en est qu'on n'apprend pas à nos enfants à chicaner. Hein? Non, ça se fait tout seul. Il faut les emporter, il faut les enseigner à prendre les bons comportements. Les mauvais comportements viennent naturellement. Mais il faut reconnaître aussi qu'en tant que parents, nous n'agissons pas de façon parfaite aussi avec nos enfants. Car nous aussi, nous avons été blessés par nos parents qui n'étaient pas parfaits. Et le cycle s'est reproduit de génération en génération depuis la chute et ça a causé des conséquences. Et c'est quoi ces conséquences-là? Eh bien, ce sont des blessures qui nous pousse à nous protéger et à nous centrer sur nous-mêmes, parce que on est en danger, il faut se protéger. Ça nous apprend aussi à voir le mal autour de nous. On voit juste le mal, puis on devient anxieux. Et ces blessures-là aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent une fausse perception de nous-mêmes, et des autres, en voyant juste ce qui ne va pas dans nous. Et que le mal chez les autres. Ils ne font que le mal. On ne voit pas non plus le bien qu'ils font. Parce qu'on est tous créés à l'image de Dieu. On a cette image de Dieu en nous qui nous permet de faire le bien aussi. Et souvent, ces blessures-là nous amènent dans une attitude d'apitoiement sur moi, sur soi-même, de victime. Donc, ça, c'est tout ce qui vient à cause du monde déchu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas juste ça qui nous empêche. Il y a aussi les attaques de l'ennemi. On a un adversaire, hein? Et qu'est-ce qui fait notre adversaire? Il nous accuse. Et c'est ce que nous enseigne Apocalypse 12, 10. Je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Donc, vous pouvez tourner si vous voulez. Donc, Apocalypse 12, verset 10. « Donc, Apocalypse 12, 10. Donc, ça va comme suit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Donc Dieu, Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu. Mais je ne veux pas vous rester là-dessus, mais il y a une autre promesse, il y a une ressource encore plus importante. Donc, on voit dans 1 Jean 2, 1-2, donc je l'ai écrit sur le diaporama. Donc, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, on a vu ça la semaine dernière lorsqu'on a parlé du repas du Seigneur, que Jésus est mort pour nos péchés. Donc, et c'est notre avocat, c'est lui qui nous défend. On ne peut pas avoir de meilleur avocat. Il n'y en a pas d'autre. En tout cas, ça me rassure, même si j'ai un ennemi qui m'accuse. Mais c'est pas ça, il ne fait pas juste nous accuser aussi. Il nous ment. Il nous ment sur nous. Il nous ment sur les autres. Et il nous ment sur Dieu. Regardez ce qu'il a dit à Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, que vous allez mourir. Il dit, c'est parce qu'il sait. Donc, il ment sur Dieu. Il sait que vous allez venir comme lui, puis il ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc, il veut garder sa grandeur. En tout cas, je paraphrase, mais c'est ça. Donc, il nous ment. Et souvent, on croit ses mensonges, malheureusement. On croit ces mensonges. On croit les mensonges sur les autres aussi. On ne va pas vérifier. Et des fois, c'est même juste des perceptions. On ne va pas vérifier. On n'essaie pas de régler les choses. Et le fait qu'on croit des mensonges sur Dieu, bien souvent, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de la reconnaissance. Et juste pour vous rappeler ce que Jésus en a parlé de comment il nous ment, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc ça, c'est toutes les choses qui nous empêchent d'être reconnaissants. Je ne veux pas vous laisser là non plus. Je veux qu'on y aille plus loin aujourd'hui. Comment grandir dans la reconnaissance? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, bien, il faut réaliser que notre principal problème se trouve dans notre cœur à raison de notre nature pécheresse, notre nature déchue et notre ingratitude. Donc, comment grandir dans la reconnaissance? Eh bien, en demandant à Dieu de nous donner un cœur reconnaissant. C'est bien beau ça, mais comment est-ce qu'on fait ça, demander un cœur reconnaissant? Bien, première des choses, il faut peut-être reconnaître qu'on n'en a pas un, OK? Qu'on n'a pas un cœur reconnaissant. Et lui demander pardon, que notre cœur est centré sur nous-mêmes, qui nous empêche de voir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Que si on ne réalise pas ça, ben, on se pense correct. Hein? On ne peut pas donner accès à Dieu à notre cœur. Oups, j'ai oublié quelque chose. Je pense que je connais par cœur. J'ai une histoire à vous conter concernant le fait qu'on est centré sur nous-mêmes, puis on est ingrat. C'est l'histoire, qui s'est passé sur le lac Michigan le 7 septembre 1860. OK? Ça fait assez longtemps. Donc, c'était un bateau à vapeur qui avait à peu près 400 personnes à bord. OK? Et vers 2h30 du matin, il y a une goélette qui a foncé sur ce bateau-là, puis elle a fait des bris au bateau, mais c'est un bateau à vapeur, puis l'autre, c'est une goélette à voile. Là. Donc, l'équipage du bateau à vapeur, on dit à la goélette, va-t'en, tu dois avoir plus de problèmes que nous, là, parce que nous, on est un gros bateau à vapeur. Sauf qu'une demi-heure après, le bateau a commencé à se disloquer. Et là, c'était le naufrage pour ces personnes-là qui étaient dans le bateau. Et durant 6 heures qui suivent, il y a des fermiers et des habitants qui étaient proches de là qui ont aidé les naufragés à venir sur la côte. Et il y en a un qui s'appelait Edward Spencer. Lui, c'était un étudiant en théologie dans une école de théologie qui était pas loin de là, donc du lac Michigan. Donc, vous savez que le lac Michigan, il y a beaucoup d'écoles bibliques. Et là, lui, quand il a vu ça, il était un bon nageur, il a sauté dans l'eau, il a cherché des personnes, puis tout ça, malgré le froid et tout ça. Semble-t-il qu'il n'aurait sauvé 17. Et là, à un moment donné, il était proche du feu, puis il se réchauffait. Puis là, il entend quelqu'un crier, il est retourné, puis tout ça. Et il a sauvé 17 personnes. Et sauf que ça a été difficile pour lui, parce que ça l'a meurtri son corps, l'eau était froide et tout ça, et il a eu des problèmes à marcher, tout ça. Il a été obligé d'arrêter ses études bibliques, puis son désir d'être théologien, il a arrêté, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un reporter qui dit, c'est quoi qui vous a le plus surpris dans cette situation-là? Bien, il dit, de toutes les personnes que j'ai sauvées, il n'y a personne qui est venu me remercier. C'est quelque chose. C'est notre cœur. Notre cœur. On est centré sur nous. Oui, Jean-Claude? Exact. Donc, notre cœur, demandez à Dieu sincèrement qu'il nous donne un cœur reconnaissant, qu'il nous enlève, confesser notre ingratitude, qu'on prend les choses pour acquis. Donc, une autre façon de grandir dans la reconnaissance, en exposant notre cœur à Dieu, en lui demandant de guérir nos cœurs afin qu'il puisse nous guérir de nos blessures émotionnelles. Et il y a un passage dans Luc 4, 18 que j'aime bien, qui résume bien ce que Jésus est venu faire. Je peux vous le lire. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés. » Je ne sais pas si je l'ai vu. Non, c'est pas ça. Donc, on voit que justement Jésus est capable de guérir nos cœurs. Mais ça va impliquer de notre part de s'engager à visiter nos blessures avec lui. Et ça, c'est vraiment pas facile. Je le sais parce que j'ai passé par là. C'était pas facile. On n'aime pas visiter les choses qui nous ont fait souffrir dans le passé. C'est pas agréable. Cependant, ça en vaut la peine. Parce que c'est en l'exposant à Dieu qu'on le met en lumière et c'est là que Dieu peut agir. Il peut nous consoler. Il peut nous restauré. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai dû être accompagné dans ce processus-là par d'autres personnes. Et c'est un processus. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis « Ah, je suis délivré pour la vie. » Non, c'est un travail sur soi à chaque jour. Aussitôt qu'on sent une douleur, une frustration, que ça ne va pas bien dans notre vie, allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Exposons-lui ce qu'on ressent. T'sais, souvent, on a honte de dire « Ah, je ne peux pas dire ça à Dieu, ça n'a pas d'allure. » Non, il sait pareil. Il sait pareil. Il sait pareil. Pourquoi pas avoir confiance? C'est un manque de confiance en lui, de certaine façon, un manque de foi. Il veut. Des fois, on pense que Dieu est comme nous, comme nos parents, qui vont, en plus, quand ils rencontrent quelque chose, ils vont nous punir et tout ça. Non, il veut nous restaurer. Il veut nous restaurer. Il a toujours les bras ouverts pour qu'on vienne à lui, pour nous réconforter. Donc, ça, c'est une façon de grandir dans la connaissance en reconnaissant qu'on n'est pas reconnaissant, en reconnaissant qu'on a besoin de guérison pour qu'on s'ouvre à Dieu aussi. Une autre façon, bien, c'est en méditant la parole de Dieu, où nous voyons toutes les promesses que Dieu a pour nous. C'est ça? Donc, j'ai un exemple que je vais vous lire, le psaume 121. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est le psaume, il l'appelle le psaume du voyageur, mais bien sûr, voyageur sur la terre, si on peut dire. Donc, ça va comme suit. Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tellement des belles promesses. Le secours me vient de l'Éternel. C'est juste lui qui peut nous secourir réellement. Et il a fait les cieux et la terre. Il est capable de nous secourir. Il a la force pour le faire. Il n'a pas besoin de dormir et de se reposer. Donc, la nuit, on peut se reposer en paix. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, donc s'il a gardé Israël, il est capable de nous garder encore. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ça veut dire qu'il est proche de nous, ça, hein? L'ombre, ma main droite. Oui, ma main droite, c'est ça. L'ombre, mon ombre, regarde, elle est là, je l'avoue. Donc, il est près de nous. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me garde tout mal. Il garde mon âme. On est en sécurité. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès à maintenant et à jamais. Et ça, c'est juste un psaume parmi tant d'hommes. Les psaumes sont pleins d'affaires comme ça, de promesses de l'Éternel qu'il faut s'accrocher. Ça devrait nous amener dans la reconnaissance. Ça devrait nous faire grandir dans la connaissance en méditant la parole de Dieu. J'aime un verset aussi qui m'amène vraiment à la connaissance, c'est Philippiens 4:4 qu'on a peut-être, en énumérant les bienfaits de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, En énumérant les bienfaits de Dieu, c'est quelque chose qui va nous amener dans la connaissance. Dans la version sommaire, va comme suit, je vais vous la lire, je pense qu'elle est là. Il dit, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » J'aime bien cette version-là parce que les autres versions, c'est « Réjouissez-vous réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. » OK? Je trouve, on dirait que c'est comme si on se pompe pour « Hey, me réjouis. » On se pompe, là. Non. Une chance, c'est pas sur vidéo, ça, hein? Donc, mais ça, c'est profond. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. C'est ça. Moi, quand j'ai lu ce passage-là, ça a tout changé la portée de ce passage-là. Tout ce que le Seigneur est pour moi, mon sauveur, mon rédempteur, mon Dieu, mon avocat, mon ami, mon grand frère, parce qu'il dit que c'est le premier-né de plusieurs frères, l'Éternel, l'Alpha, l'Oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, celui qui est assis à droite de Dieu le Père. Et je pourrais continuer. C'est ça ce que le Seigneur est pour moi. Donc, méditer la parole de Dieu, énumérer ses bienfaits, ça va nous aider à grandir dans la connaissance. Et aussi par la prière, les chants d'action de grâce. Éphésiens 7 à 5, 17 à 20. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien qu'on chante ici. Ce n'est pas juste pour faire beau. C'est plus profond que ça. Ça nous aide dans notre reconnaissance, les chants. Comme moi, j'aime ça. Quand que je préside, j'aime ça préparer les chants parce que le fait de trouver des chants, ça m'en fait écouter plusieurs. Puis là, ça me fait tellement de bien. C'est un plaisir pour moi de préparer les chants parce que ça m'aide. Maintenant, une fois que notre reconnaissance a grandi, la question qu'on peut se poser, quand devons-nous être reconnaissants? Eh bien, c'est en plein ce que 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Quand? En toutes circonstances. Ça veut dire même dans les situations difficiles? Oui, même dans les situations difficiles. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, qu'on refoule ce qu'on vit. Non. Mais j'ai une petite histoire justement pour illustrer ça. Mathieu Henry, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pasteur puritain du 18e siècle qui a fait des commentaires biblique qu'on utilise encore aujourd'hui. Un jour, il a été attaqué par des voleurs lorsqu'il habitait à Londres. Et malgré cette mésaventure, il a pu en faire un sujet de reconnaissance. Donc, dans ses mémoires, il a dit la chose suivante, il dit, concernant cette situation, il dit, « Premièrement, dit-il, je veux être reconnaissant parce qu'on ne m'a jamais rien volé auparavant. Deuxièmement, parce qu'ils m'ont pris que mon argent et m'ont laissé la vie sauve. Troisièmement, parce que même s'ils m'ont tout pris, c'était bien peu. Et quatrièmement, parce que j'étais la victime et non l'agresseur. Donc, un homme de Dieu qui a su regarder au-delà des circonstances. C'est un modèle. C'est bon d'avoir des modèles comme ça des fois. Donc, quand devons-nous notre reconnaissance? L'autre question, à qui devons-nous la reconnaissance? Ben, il y en a un qui est évident. Premièrement, à Dieu. Seulement à Dieu. À Christ, oui, Dieu, Christ, oui. OK? Mais aux frères et aux sœurs dans la foi. Hein? Deux Thessaloniciens dit la chose suivante, donc c'est Paul qui parle, il dit « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. » Donc, un exemple de Paul qui est reconnaissant envers les Thessaloniciens. Et souvent, nous avons tendance à prendre les choses pour acquis. Remercier ceux qui font le ménage pour l'Église, qui s'occupent de la garderie, de l'école du dimanche, qui s'occupent d'Opération Enfant Noël. Merci. De ceux qui font des travaux sur le bâtiment quand il y a des bris, pour ceux qui président, etc., etc. Et c'est un mode de vie, la reconnaissance, exact. Et si on est reconnaissant les uns envers les autres, pour ce qu'ils font pour nous, pour l'Église, vous allez voir que les conflits vont diminuer, la critique va diminuer. Seulement aux frères et aux sœurs de l'Église? À toute personne qui le mérite dans notre entourage. Donc, à nos parents, c'est eux qui nous ont donné la vie. Ça marche. À notre époux, notre épouse, est-ce qu'on est reconnaissant? Pas tout le temps. Nos enfants, nos petits-enfants, si on a, nos arrière-arrière-petits-enfants, je vais m'arrêter là. Mais vous comprenez, nos enfants au sens large, nos amis, nos collègues de travail. Toutes ces personnes-là ont droit à la reconnaissance. Même s'ils ne sont pas croyants, elles ont été créées à l'image de Dieu et peuvent nous faire du bien. La bonté, ce n'est pas une exclusivité des croyants. Là. Il y en a qui sont bons aussi, même en étant non-croyants. Ils font des bonnes actions. Pas bons dans le sens qu'ils peuvent aller au salut, c'est pas ça que je veux dire, mais on est capable de faire des bonnes actions. Donc, en résumé, la reconnaissance doit être exprimée de façon consciente. Première des choses, en constatant le bien reçu. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être matériel, un cadeau, etc. Ça peut être immatériel, soutien moral, présence. Le coût aussi. Il faut qu'on soit conscient du coût que ça a coûté. Et reconnaître que la source de ce bienfait se trouve en dehors de nous. Et on voit que Dieu coche toutes les cases. Toutes les cases. Et je pense que c'est la première personne à qui nous devrions avoir de la reconnaissance. Car si nous ne le faisons pas pour Dieu, il va être difficile de le faire pour les autres. Donc, prions. Oh oui, Père Céleste, merci Seigneur. Merci parce que tu touches mon cœur encore ce matin, Seigneur, par ta parole. Oui, je dois confesser que je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Je suis souvent critique, ingrat, aussi centré sur moi, autosuffisant, Seigneur. Mais je veux avoir ce cœur de plus en plus reconnaissant, Seigneur, parce que je sais que ça me fait du bien, ça va me faire du bien, Seigneur. Oui, un cœur dans la reconnaissance est un cœur joyeux, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses faire cette œuvre dans mon cœur, mais pas juste dans mon cœur, mais dans le cœur de mes frères et mes sœurs, Seigneur, afin que nous soyons des agents de reconnaissance, Seigneur, qui font des bienfaits autour de nous, Seigneur, et qui, que ce soit une occasion de parler de toi, Seigneur, à travers notre reconnaissance qu'on leur donne. Ça va peut-être leur poser des questions, pourquoi tu fais ça? Mais c'est parce que je suis reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a fait pour moi, Seigneur. Oui, Père Céleste, on veut t'amener nos cœurs afin que tu puisses guérir ce qui nous empêche, Seigneur, d'être reconnaissant. Que tu puisses nous enlever ce cœur ingrat, Seigneur, et que vraiment tu nous remplisses de ta joie à toi et qu'on puisse regarder tes bienfaits, Seigneur, pour la gloire de ton nom que je te prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.